Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 15h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les syndicats toujours ensemble pour dénoncer les projets de casse sociale du gouvernement. C'est le discours qu'a tenu Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT depuis la manifestation du 1er mai à Paris. Jour de fête du travail oblige, des centaines de cortèges se sont élancés aux quatre coins du pays depuis ce matin. On comptabilise au moins 3000 personnes à Marseille, et 3000 à Toulouse également, ou encore 6500 à Lyon. Des manifestations malheureusement émaillées de heurts, de débordements. 17 personnes ont été interpellées à Lyon en marge du cortège, 15 à Paris, à Saint-Étienne. Ce matin, des militants d'extrême gauche ont chahuté le candidat aux élections européennes, Raphaël Glucksmann. Présent dans le cortège, la tête de liste PS Place Publique a dû être exfiltrée de la manifestation après avoir été ciblé par des jets d'œufs de peinture. Il y a quelques jours, il avait légitimé l'évacuation de Sciences Po Paris, occupée par des étudiants pro-palestiniens. Raphaël Glucksmann a reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal, qui ont déploré son éviction du cortège. Attention, vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales en vue des prochaines élections européennes du 8 juin prochain. Les retardataires pourront toujours aller en mairie jusqu'à vendredi. 14 départements, vigilance orange pour les orages. Ça concerne toute l'Île-de-France, la Picardie ainsi que la Marne, l'Aube et Lyon. D'après Météo France, l'alerte doit s'étendre toute la nuit. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, la légende de la Formule 1, Ayrton Senna, perdait la vie au Grand Prix de Saint-Marin en Italie sur le circuit d'Imola. Un week-end de noir pour la catégorie reine. Le Brésil a rendu hommage à son génie de la course automobile. De nombreuses personnes se sont recueillies sur sa tombe dans un cimetière de Sao Paulo, sa ville natale. Et puis en football, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace en favori en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund. Le début du match est à 21h. Noté hier soir dans l'autre demi-finale, ce match nul de partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est tout pour l'essentiel de l'actu. Bonne journée à tous.
La météo dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, le temps est pluvieux dans l'Hérault. On observe entre 14 et 16 degrés sur l'ensemble du département. Demain, jeudi, de la pluie dominera largement le ciel du département. On attend 10 degrés le matin et 12 degrés l'après-midi à Lunel. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Palavas et Saint-Mathieu-de-Trévier, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com. Aviva. Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
Aujourd'hui, on est dans un lieu privilégié qui est l'hôtel de Girard à Montpellier pour une manifestation qui est très attendu en ce début d'année, en ce printemps, avec un interlocuteur que nous connaissons, Radio Aviva Montpellier. On a le grand plaisir de rencontrer Michel Aurier. Michel Aurier qui est quand même, pour les gens de Montpellier, un des grands intervenants de la vie de Montpellier aujourd'hui, parce que le nouveau festival de Radio France Occitanie, il reprend du galon cette année en 2024, grâce à vous, Monsieur Aurier, car ce nouveau festival Radio France Occitanie, qui a signé une convention triennale, je crois, avec l'État, on en a parlé à la conférence de presse aujourd'hui, nous donne un programme qui est juste magnifique et qui donnera envie à tous les gens qui vont nous écouter ce matin d'acheter un billet et de venir écouter des œuvres et des musiciens hors pair, des orchestres hors pair et des vedettes aussi de jazz que tout le monde se dispute et qui auront la joie de ne jouer qu'une fois à Montpellier cet été. Donc Michel Aurier, directeur de la musique et de la création à Radio France et directeur du Festival de France de Radio France Occitanie Montpellier, cette nouvelle édition, la 40e édition, je crois, c'est une édition qui promet et des surprises, mais qui peut-être vous a demandé aussi un travail encore plus fourni et surtout de trouver des musiciens et des orchestres encore plus à la hauteur de vos attentes et des attentes du public du festival.
Enfin, chaque festival, c'est pour ça qu'on l'appelle le nouveau festival, c'est que chaque festival, c'est
une nouvelle édition à construire. Donc évidemment, on essaie de ne pas faire ce qu'on a fait la fois d'avant, ça c'est clair, et d'attraper ce qui est, à nos yeux, le plus important, le plus urgent à entendre dans un moment donné. Et donc, évidemment, chez les plus grands artistes, des esthétiques qu'on veut défendre, sur la musique symphonique, sur la musique classique, sur la musique de chambre, sur la musique de jazz, sur des esthétiques croisées, parfois, comme on peut le faire entre le pop et entre la pop et le symphonique. Donc, à chaque fois, on essaie de trouver les projets qui, à la fois, sont à notre avis, les plus beaux à entendre et qui sont aussi ceux à faire entendre particulièrement à Montpellier. Et donc, c'est vrai qu'on a des familles d'artistes, ça c'est la force de Radio France aussi, hein, qui nous sont très attachés, auxquels on est très attachés, dont on a suivi le parcours, ou bien dont on met le pied à l'étrier pour les plus jeunes d'entre eux. Et c'est vrai que, par exemple, Kissine nous fait le bonheur, l'honneur et l'amitié de nous offrir le seul concert qu'il fera dans les festivals d'été, cet été. Evgeny Kissine est quelqu'un qui a quasiment démarré à Montpellier du Sorbonne Écurie. On va recevoir un très jeune chef finlandais, Tarmo Peltikoski, qui est le nouveau chef d'orchestre qui remplace Tugan Sokiev à Toulouse, avec l'Orchestre de Toulouse, sur les tableaux d'une exposition, Moussorgsky, dans l'argent de Ravel. Ravel sera très présent sur le festival, puisqu'on va créer un inédit de Ravel qu'on a retrouvé avec la Bibliothèque nationale de France, a retrouvé récemment, et qu'on va créer à Montpellier, une œuvre assez courte, de 4 minutes, qui s'appelle « Chanson galante », sur un poème, mais qui est, dans lequel on trouve déjà tout Ravel. Ensuite, on va avoir de très grands interprètes, Renaud Capuçon, Marianne Crébassa, Preti Yende, Piotr Anderszewski, Alexandre Kantorov, Daniel Luzakovic, le Quatuor Diotima, enfin, il y a toute une pléiade, je ne vais pas tous les citer, de très grands artistes avec lesquels on a construit cette programmation, avec un fil autour de Bach. On va donner une version de Requiem de Mozart qui sera sublime par Julien Chauvin. On va également accueillir une programmation de jazz de très très haut niveau avec Henri Texier, avec Brad Meldo, avec Cécile McLaurin-Salvant, etc. On va ouvrir des lieux à Montpellier dans lesquels on n'avait pas forcément l'habitude d'y voir le festival. Je pense au cours intérieur d'un certain nombre d'hôtels particuliers. Et puis on va aussi mêler un peu les esthétiques. On va faire un concert de Jeanne Adède pour orchestre symphonique. On va faire, on va accueillir le groupe Electro Air sur leur nouvelle version de Moon Safari. Et puis avant ça, on fera la musique de Steve Reich pour 18 musiciens. On a Tohubohu qui est un moment de 3 jours de musique électronique aussi, qui est très très pointu, très très intéressant. Enfin, voilà, c'est un festival qui a de multiples dimensions, dans de multiples endroits. Ça va être du Domaine d'eau, l'Amphithéâtre d'eau, l'Agora, le Corum, l'Opéra Comédie, le Musée Fabre, la Médiathèque, et puis d'autres endroits un peu inédits dans lesquels on va. Je pense que ce qui compte, c'est qu'on mette la ville sous tension pendant une dizaine de jours, enfin pendant le temps, 13 jours exactement, dans le temps du festival.
Alors, Michel Aurier, ce matin, en conférence de presse, vous nous avez dit que vous nous promettez un immense été et que ce festival, c'était un peu comme un brasier ardent, c'est-à-dire on soufflait sur les braises, on se remettait en question, on réinterrogeait ce qu'on sait faire. Donc ce sont des très belles formules. Alors vous nous avez même indiqué que pour les jeunes musiciens, on parle d'une université d'été, un peu comme une académie, comme on voit à la télévision, des jeunes musiciens qui vont pouvoir participer, se former, participer avec de grands orchestres, de grands chefs.
Oui, une académie comme à Verbier, Lucerne ou Tanglewood aux États-Unis. C'est-à-dire on va auditionner beaucoup de musiciens pour en recruter une vingtaine qu'on va intégrer à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et qui vont venir travailler avec leurs aînés, qui les coacheront, qui leur apprendront ce que c'est que le métier de musicien d'orchestre sur des partitions très exigeantes, hein, puisque c'est les Kindertotenlieder de Mahler, c'est la 4e symphonie de Mahler, c'est le 1er concerto de Beethoven, c'est la 2e symphonie de Tchaïkovski qu'on appelle la Petite Russie. Donc c'est vraiment des pièces très, très denses, très fortes, sur lesquelles ils vont apprendre le métier de musicien d'orchestre
aux côtés de leurs aînés. Et puis, le temps de l'académie, le temps du séjour à Montpellier, ils vont également donner des concerts de musique de chambre, notamment Pierre et le Loup pour les enfants, qu'on leur fera jouer à cette occasion-là. Ce qui permet aussi d'offrir quelque chose pour les familles et les enfants à l'occasion du festival.
On va faire une courte pause musicale et on retrouve Bernard Montanari avec Michel Aurier juste après. A tout à l'heure sur Aviva. Aviva. Retour de votre magazine avec Michel Aurier, le directeur du Festival Radio France, toujours au micro de Bernard Montanari.
Alors, vous nous avez aussi indiqué ce matin qu'on a retrouvé à la Bibliothèque nationale de France un vieux document, je crois que c'était Ravel, c'est ça, et que cet opéra va être joué pour la première fois en première mondiale. C'est vraiment un événement. Je crois que c'est le 9 juillet, pour le lendemain de l'ouverture officielle du festival. Pour vous, c'est une expérience, une expérimentation?
Bah, c'est très émouvant, c'est-à-dire on pensait que tout Ravel était là, et on retrouve, enfin c'est la Bibliothèque nationale de France qui a retrouvé dans une vente cette partition écrite par le jeune Ravel, qui est un arrangement, enfin une orchestration d'un poème qui s'appelle Chanson galante, pour chœur et orchestre. Et c'est une partition qui dure à peu près un peu plus de 4 minutes. Mais tout Ravel est déjà là. Alors, tout Ravel est déjà là, mais on sent encore l'influence de Fauré, qui a été son professeur. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très, très beau, très émouvant. Et puis, c'est un inédit de Ravel. Donc, c'est tellement incroyable de retrouver aujourd'hui encore un inédit de Ravel, quelque chose qui n'existait pas, enfin, qu'on ne pensait pas pouvoir... on ne pensait pas exister. Enfin, c'est tout ça vraiment formidable. Donc, quand Mathias Auclair, qui est le chef du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France, m'a appelé pour me signaler leur nouvelle acquisition, j'ai pas voulu attendre 2025, parce que 2025 c'est le centenaire de la mort de Ravel. J'ai pas voulu attendre 2025 pour j'ai pas voulu attendre l'an prochain. J'ai voulu qu'on le donne tout de suite. Et donc j'ai fait ça avec François-Xavier Roth et les Siècles et le chœur de Radio France, et effectivement, ce sera le 9 juillet prochain.
Alors, les 18 et 19 juillet, il y a un événement qui est aussi cinématographique, le Napoléon d'Abel Gance, qui a été orchestré grâce au support de 300 musiciens, ce qui est énorme. Il a pris 16 ans de restauration. C'est un film de 1927,
et qui témoigne aussi de l'évolution du cinéma et du parlant qui arrivait derrière. Donc pour vous, cet événement couplé, c'est-à-dire du cinéma, de la musique, ça fait partie d'un festival, d'une orientation d'un festival comme Radio France?
Oui, c'est un travail dont on est très fier et qui est très important pour nous à Radio France. C'est-à-dire que si on n'avait pas été là, ça n'aurait pas pu se faire. C'est 7 heures de partition, c'est 7 heures de film, 7 heures de partition, c'est une musique ininterrompue du début à la fin, qui a été créée à partir de partitions de compositeurs connus ou inconnus de la fin du 18e jusqu'au milieu du 20e. Et donc interprétée avec énormément de points de synchro. Interpréter cette musique, c'est un travail titanesque. Et donc, on y a mis toutes nos forces, c'est-à-dire nos deux orchestres, le chœur, ont travaillé sans relâche sur cette partition. Je crois qu'on a travaillé 7 à 8 semaines pour sortir l'ensemble de l'enregistrement. Et donc, mais c'est vrai que l'image a été restaurée pendant 16 ans, parce qu'ils ont... On a aussi retrouvé des bobines qui étaient perdues, des choses, et qu'il a fallu restaurer, et que ça sera l'occasion de présenter pour la première fois cette œuvre qui est une œuvre iconique. Il n'y a pas un grand réalisateur au monde qui n'est pas au centre de sa pièce de référence le Napoléon d'Abel Gance. C'est une leçon de cinéma absolument incroyable.
Alors, Michel Aurier, directeur de la musique et de la création Radio France, et surtout directeur du nouveau festival de Radio France Occitanie-Montpellier, vous nous avez indiqué tout à l'heure que pendant ce festival, il y aurait un moment qui est l'inauguration, qui sera gratuite et qui sera Place de l'Europe avec des musiques de films. Vous comptez que les Montpelliérains répondent très nombreux à cette manifestation d'ouverture du Festival Radio France ?
Ah oui, je suis sûr, parce que l'an dernier, déjà, on a fait la clôture comme ça, il y avait énormément de monde. Et puis là, le programme, on a voulu faire un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques et donc avoir un programme très, très festif, très accessible, qui fasse appel aux grandes musiques de films comme Star Wars et autres. Et puis les chariots de feu et puis des choses comme ça. Enfin, et donc ça, je pense, c'est un moment vraiment de joie, de communion collective qu'on va donner pour l'ouverture du festival. Et je remercie vraiment la mairie de Montpellier parce que c'est grâce à elle qu'on peut faire cet événement et avec l'orchestre évidemment. Et ça sera évidemment un moment très important pour nous.
Alors, Michel Aurier, on vous a vu cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, à la télé pour cette émission qui était animée par Stéphane Bern, ici, à l'Opéra Berlioz Corum, pour les victoires de la musique classique. C'était le jeudi 29. Pour vous, en tant que directeur de festival, ça appuie encore plus votre présence, votre travail, le travail de vos équipes, le fait que les victoires de la musique classique se situent à Montpellier, à l'Opéra Corum?
Ah bah oui, c'était important. Je crois que c'est très important que l'audiovisuel public investisse Montpellier. C'est le cas de Radio France, c'est le cas de régulièrement, en tout cas France Télé vient tourner des choses à Montpellier, et puis c'est toute une dimension de la vie, y compris économique maintenant de Montpellier, cette société de production audiovisuelle qui s'y développe. Et ça, je trouve ça vraiment très très important. Mais au-delà de ça, sur le terrain de la musique classique, le fait que les victoires de la musique classique aient eu lieu à Montpellier, ça inscrit Montpellier comme l'une des très grandes villes qui supporte la musique classique et qui se bat pour elle en France. Et je crois que c'est évidemment bon pour tout le monde, y compris pour le festival.
Alors Michel Aurier, pour finir et pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous confirmez aussi qu'on peut acheter des billets. Alors je crois que c'est à partir de 13 mars directement dans les guichets, mais c'est des billets à partir de 5 €. Donc on découvre la musique comme on peut découvrir. C'est même moins cher qu'une place de cinéma.
Mais oui, comme on va acheter une glace en ville, on peut acheter un billet pour la musique. Oui, il y a des places à 5 € et puis il y a des places évidemment beaucoup plus chères suivant le type de concert, le type de placement qu'on choisit, etc. Mais de toute façon, il y a énormément de tarifs différents et c'est évidemment quelque chose qui reste très accessible.
Alors, pour faire un petit florilège, donc on aura du Camille Saint-Saëns avec Renaud Capuçon, du Maurice Ravel, du Gustave Mahler, le récital d'Evgeny Kissin avec du Beethoven, du Brahms, du Rachmaninov, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, le Requiem de Mozart, qui va être une œuvre, je pense, fantastique, le 15 juillet. John Eliot Gardiner, je pense, qui aime Montpellier.
Absolument, qui adore Montpellier, qui a été très impressionné par l'accueil qu'il a reçu du public l'an dernier ici, ça c'était formidable.
Alors il y a le Stabat Mater de Rossini, qui est une partition sacrée, Jeanne Adède, vous en avez parlé tout à l'heure, et puis surtout des jeunes solistes, de nombreux jeunes, qui vont découvrir et investir Montpellier, et qui deviendront peut-être, comme Fazil Say à terme, des habitués, des gens qui aiment la ville et qui reviennent à votre festival.
Oui, et puis surtout des artistes qui vont entamer une carrière très importante, on espère pour eux, enfin, en tout cas qu'ils seront repérés en tant que tels et qu'ils vont pouvoir développer leur art à travers les années et revenir effectivement à Montpellier comme dans un bain de jouvence.
Alors le dernier détail, Michel Aurier, c'est que Toru Bohu, qui se situait jadis, je crois, sur la place de la mairie, la nouvelle mairie de Montpellier, va migrer cette année vers le château d'eau, dans les jardins, la pinette du château d'eau, du domaine d'eau, pour trois soirées électroniques. Alors, on va danser sous les pins au Festival de Radio France.
C'est exactement ça, on va danser sous les pins au domaine d'eau. Dans la partie nord du domaine d'eau, là où il y a le théâtre Jean-Claude Carrière, là où il y a l'amphithéâtre d'eau. Et non, mais ça va être très joyeux comme moment, monsieur.
Alors, on avait le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Aurier, directeur de la musique et de la création à Radio France, et qui est le directeur du nouveau festival de Radio France Occitanie-Montpellier, la 40e édition. Donc, on vous souhaite un très bon festival et on aura l'occasion de vous entendre à nouveau sur les ondes de Radio Aviva. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Au revoir.
C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com. One more time. Ooh, I see. Écoutez Radio Aviva partout, tout le temps. Sur la route, à la maison ou au travail, sur notre site radio-aviva.com, sur l'application gratuite pour smartphone et tablette, sur les box, les télés et enceintes connectées en demandant « Je veux écouter Radio Aviva ». Et désormais, profitez aussi de Radio Aviva en DAB+, à Nîmes. La radio numérique disponible sur la nouvelle génération de récepteurs radio et dans votre voiture.
Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Culturel de Radio Aviva.
À l'occasion du Festival des Arts du Monde, Radio Aviva a rencontré Frédéric Tari, co-organisateur de l'événement, qui explique les origines de ce festival et l'importance de la mise en relation des cultures.
Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est une grande aventure en fait. La structure Forum des Arts du Monde s'est longtemps appelée Musique sans frontières et est devenue en 2007 un centre culturel international Musique sans frontières qui a été établi depuis l'origine à Montpellier dans le quartier de la Mausson, donc anciennement La Paillade. Nous sommes aujourd'hui toujours installés dans ce même territoire et le fondateur de cette grande aventure artistique est un certain Fethi Tabbé que beaucoup d'entre nous connaissent.
Oui, un formidable musicien, directeur artistique, directeur musical.
Et Fethi Tabbé, nous avons eu un certain nombre d'entre nous artistes également. Je suis moi-même.
Oui, parce que vous êtes musicien, Frédéric.
Voilà, à l'origine, je suis musicien, je suis toujours musicien, ainsi que Fethi Tabbé. Et nous continuons à tourner dans le monde avec lui. Nous serons en tournée en Algérie le mois prochain. Fethi Tabbé a réuni autour de lui, au fil de ces 40 dernières années, des gens qui avaient un état d'esprit un peu comme le sien, c'est-à-dire que, en gros, gros, dans l'esprit de Fethi, ce n'est pas suffisant d'être musicien. Voilà. Il faut être musicien et utile, au-delà de notre métier, qui n'est pas seulement un métier, qui est une passion à la base, de l'exercice de notre métier. Donc pour être utile, ce qu'a imaginé Fethi, c'est au fil des tournées internationales qu'on a faites, on a eu la chance de voyager sur les 5 continents depuis 35 ans, donc on a fait une bonne partie du monde avec l'orchestre Fethi Tabe, qui s'appelle le Fethi Tabe World Group, et nous avons rencontré énormément de gens d'artistes avec lesquels nous avons collaboré. Alors, bien sûr, des artistes du spectacle, on pense à des musiciens, mais également des danseurs, des comédiens, et puis au fil du temps, on a énormément participé avec d'autres formes artistiques, par exemple des plasticiens, y compris des artistes de l'image. Et donc, très vite est venue l'idée qu'en marge de ces tournées internationales, on pouvait, je disais, être utile comment ? Donc finalement, en allant à la rencontre des populations locales, et donc parfois c'était dans des grandes villes du monde, dans des endroits où personne n'allait finalement, et parfois c'était vraiment au milieu de nulle part, et là vraiment personne n'y était allé, et encore moins des occidentaux, alors même que le groupe que nous formons est déjà un groupe multiculturel.
D'où le titre Les Arts du Monde, le Forum des Arts du Monde.
Exactement. Donc c'est finalement une sorte d'aboutissement. Cette dénomination Forum des Arts du Monde donne l'idée d'une agora, d'un point de rencontre, bien entendu, c'est ce qu'on a voulu toujours, et qui ne soit pas uniquement basé sur la musique, qui est pour nous le langage universel, et qui est notre art premier, mais pour autant qu'on puisse accueillir toutes les formes artistiques et qu'elles collaborent, qu'elles dialoguent, et que tout le monde qui est accueilli à l'occasion de cette fête puisse s'émerveiller de ce qui se passe finalement. En fait, si je devais résumer d'un mot, depuis l'origine, pour Fethi, il s'agit de mettre en lien. Voilà, de mettre en lien les gens, et finalement, ce que nous, on sait faire un peu, c'est-à-dire de la musique, des spectacles, et travailler avec des artistes, c'est le vecteur. Donc cette fête des arts du monde, c'est l'occasion pour nous de mettre en relation des gens qui viennent sur ce site. Je pourrais parler dans quelques instants du dispositif. Et surtout que le public qui est accueilli là, qui est accueilli en plus dans la gratuité complètement, des gens viennent avec leurs enfants aux besoins, avec leurs amis, donc c'est totalement ouvert à tout le monde, puissent découvrir toutes sortes de gens et aussi participer. Voilà, une des grandes idées, c'est qu'on essaye de quitter, si j'ose dire, le consumérisme culturel pour pouvoir aussi se vivre comme, ah oui, si moi-même, j'essayais, quoi. J'entends une conférence, mais je peux poser une question. Je vois des musiciens percussionnistes, mais je voudrais bien apprendre aussi à jouer ça.
Ce dont vous parlez, Frédéric, c'est vraiment finalement se vivre ensemble.
C'est complètement ça. C'est vraiment, la chance qu'on a eue, en vérité, on a été vraiment... émerveillé de rencontrer des artistes magnifiques depuis toutes ces années, et on a eu envie de transmettre ça. On s'est dit, sur ce territoire où la structure était installée depuis 40 ans à Montpellier, voilà, et dans ce quartier particulier de la Mosson aujourd'hui, finalement les gens voient peu passer d'artistes qui viennent d'ailleurs, et en particulier des quatre coins du monde, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis toujours.
Alors maintenant, vous parliez justement, on va en parler, hein, du dispositif, hein, parce que il y a plusieurs scènes, il y a évidemment, je vois beaucoup de stands. Alors, on va parler un peu de cette aventure.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, on est non seulement soutenu, mais si j'ose dire missionné par à la fois la ville de Montpellier et la métropole, en particulier donc son maire et son président Michael Delafosse, qui a souhaité que certains acteurs culturels, comme on dit, accompagnent une grande transformation qui est le renouvellement urbain de ce territoire particulier, de ce quartier de la Mosson, donc, qui dans les 10 ou 15 prochaines années va véritablement changer de visage et va s'embellir à tout point de vue.
Quand vous parlez de ça, Frédéric, je pense évidemment aussi à Nourdine Barra, hein, qui a été aussi sur votre programmation du festival.
Voilà, tout à fait. Il fait partie des multiples artistes qui sont invités, en l'occurrence dans le champ de la littérature. Voilà. Mais voilà, on évoquera aussi peut-être l'ensemble des disciplines, si on peut dire ça, culturelles et artistiques qui sont représentées. Mais oui, Nourdine Barra était bien là, tout à fait.
Donc plusieurs scènes. Vous pouvez nous expliquer un peu le dispositif et puis après on va parler des stands.
Alors on est d'abord dans ce très bel espace du parc Sophie Desmarais et juste avant j'évoquais le fait que ce quartier est allant changer de visage. Il était question de mettre à l'honneur déjà des éléments du patrimoine et en fait ce parc est méconnu. Les habitants le fréquentent mais les Montpelliérains le connaissent très peu. Les berges de la Mosson sont magnifiques, il y a des promenades superbes à faire. Donc la manifestation a aussi cette vocation de faire connaître ces espaces-là. Et nous sommes installés en effet dans ce parc Sophie Desmarais, pour ceux qui connaissent Montpellier, qui borde les halles de la Mosson. Donc le passage du tramway est juste à côté, c'est très accessible, très facile, on peut se garer à proximité. Et nous avons installé dans le parc un dispositif, il y a donc deux scènes qui sont installées à l'extérieur, et nous avons également une troisième scène en partenariat avec le théâtre Jean Villard, qui jouxte vraiment, enfin qui donne dans le parc. Donc plusieurs spectacles ont tourné sur ces trois scènes consécutivement. Depuis vendredi soir, là, ça, on a commencé par une grande projection cinématographique, donc c'était une première. On a déployé un écran dans ce parc sur la grande scène qui est adossée à la mairie annexe. On a projeté un film qui s'appelle La Vache. On avait beaucoup d'habitants du quartier qui étaient là, c'était très sympa avec les enfants, enfin voilà, très familial.
Est-ce qu'on peut parler, évidemment, des temps forts de ce festival pour vous ?
Oui, alors, bien sûr, on ne pourra pas détailler toute la programmation. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'il y a eu, sur ces trois scènes, se succédant, divers artistes du spectacle, aussi bien des musiciens que des danseurs, que des comédiens. Et probablement un des clous de cette fête, c'était le spectacle d'Emmanuel Pijob hier soir, donc samedi 27, avec le monte vocal et la participation de Barbara Deraté, de Manuela Diaz également, qui sont venues toutes les deux chanter et qui ont mis le feu véritablement. Voilà, c'était un très très beau moment.
Et alors maintenant on va parler on vient de parler des artistes, on va parler un peu des stands, cette idée finalement de ce côté finalement de multiculturalisme finalement, oui, de vous pouvez nous en parler?
Oui, voilà très longtemps que le centre culturel travaille avec les structures du territoire mais bien au-delà, et donc l'idée est très vite émergé qu'il fallait absolument qu'elle soit présente. Voilà. Donc on a repris contact avec les unes et les autres, certaines avec lesquelles on travaille depuis très longtemps, d'autres c'était l'occasion de les découvrir, et on a essayé de proposer qu'on pourrait appeler une sorte de melting pot à la française. Et donc beaucoup de structures qui travaillent sur certaines cultures du monde sont venues installer des stands, proposer des activités. Donc en plus de tout ce qui s'est produit sur les trois scènes qu'on a évoquées, une bonne quarantaine d'exposants sont présents sur la fête des arts du monde, venant des quatre coins du monde. Voilà, on a par exemple l'Institut Confucius qui promeut la culture chinoise, une association qui s'appelle Los Cumbiaberos del Sur qui promeut la culture colombienne, et ainsi de suite. Voilà, des artistes aussi de toutes disciplines.
Alors c'est intéressant Frédéric, parce que justement j'aimerais qu'on parle de comment le public qui va venir, qui découvre ce festival depuis deux jours, est-ce que vous les voyez poser des questions à tous ces stands, échanger, partager avec eux?
Oui, complètement. Alors ça, c'est la belle découverte. C'était vraiment notre vocation de faire ça. Et on a le bonheur de voir que ça se passe comme ça, effectivement. On essaye d'inviter le public qui aborde le lieu à ne pas rester statique, vraiment déambuler, se déplacer d'une scène à l'autre. Et donc, voilà, ça fonctionne effectivement comme ça. Et du coup, il y a une installation de plusieurs espaces de stands qui font que, oui, les gens vont effectivement rencontrer à chaque fois les différents responsables. Par exemple, ce matin, on a eu une cérémonie chamanique directement sur un stand, pendant que sur un autre, sur le stand de Céramin, une céramiste montrait l'usage de la fabrication des céramiques, et ainsi de suite. Voilà, on a des auteurs aussi qui interviennent.
J'aimerais bien maintenant, pour les auditeurs de la radio, que vous expliquiez aussi pourquoi et quelle est pour vous l'importance d'avoir monté ce festival et justement parler de mission.
Alors, je vais finalement reprendre l'idée qu'on avait évoquée il y a quelques instants, qui est vraiment le sentiment profond, la conviction, et la mission. Vous avez donné ce mot fort, qui est celle de Fethi Tabe. Pour moi, je le redis de cette manière-là, c'est être utile. Et donc la façon qu'a eu Fethi Tabe d'imaginer être utile, en toute modestie, c'est d'essayer de créer du lien. Et pour créer du lien, il faut pouvoir s'intéresser à l'autre sans en avoir peur. Quand l'autre est différent, on peut avoir un réflexe de recul, ne pas aller vers lui. Et donc tout le travail qu'on a essayé de conduire, c'est de mettre en lien. Et pour nous, les arts sont un magnifique moyen de mettre en lien. Parce qu'il y a la notion de la beauté, il y a la notion de la relation humaine qui sont vraiment au centre de tout ça. Et donc cet écrin de la fête des arts du monde a été imaginé de cette manière-là, pour permettre la relation humaine et le lien à la beauté.
Évidemment, on ne peut pas se quitter sans parler de Montpellier, capitale européenne de la culture, avec tous ces acteurs engagés, ces acteurs culturels, ces plus de 140 villes de la région Occitanie, du territoire, qui sont engagées. C'est ça aussi, finalement, de finalement promouvoir la culture.
Oui, c'est complètement ça. On a effectivement une chance à Montpellier extraordinaire d'avoir une ville qui a un bouillonnement culturel incroyable.
Une grande diversité.
Tout à fait. D'ailleurs, pour cette première édition de Fête des Arts du Monde, à l'origine, le souhait que nous avions, c'était de faire ce que nous faisons dans l'année, c'est-à-dire nous faisons des résidences d'artistes qui viennent des quatre coins du monde et nous essayons de les mettre en contact à travers des rencontres avec différents publics. Et là, donc, comme c'est une première édition, nos budgets étant limités, on est allé davantage vers des gens qui étaient proches géographiquement. Et on a eu, en dehors de tous ceux qu'on connaissait déjà, le bonheur de découvrir une immense richesse culturelle. Et finalement, donc, pour l'essentiel, les gens qui sont là pour cette première édition sont des gens qui sont déjà sur le territoire de Montpellier, de la métropole, et on voit donc déjà tout le potentiel qui est là. Donc on espère bien sûr que cette candidature de Montpellier capitale européenne de la culture 2028 soit remportée, et on sera parmi ceux qui agiront dans ce sens là
C'était Frédéric Tari, co-organisateur du Festival des Arts du Monde. On se retrouve après une pause musicale.
When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you, I'll go with you. Surrounded and up against the wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend, I'll grab my bat and go with you. Yourself in a lion's den, I'll jump right in
and pull my pin and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
Retour dans votre magazine réalisé à l'occasion du Festival des Arts du Monde, nous avons pu écouter dans la première partie Frédéric Tarry, co-organisateur de l'événement. Dans cette deuxième partie, nous retrouvons Paco, restaurateur présent à l'événement.
Bonjour, je m'appelle Paco, je suis sénégalais d'origine et vivre à Montpellier depuis 2009. Pourquoi Montpellier, je ne sais pas, c'est le destin. Et je suis accueilli à Montpellier et avec une belle ambiance, je me sens chez moi.
Vous avez parlé tout à l'heure de terre d'accueil, Paco.
Oui, bien sûr. Parce que l'accueil, c'est important. Et le partage encore. Parce que je sens une grande partage ici. J'ai une association qui s'appelle Africa Tala. Le mot Tala veut dire partage. Je suis toujours dans le partage. Et à Montpellier, je vois que tout le monde partage. Tout le monde, c'est le partage. C'est une ville de partage. Et ce festival, ce que j'aime bien, c'est le festival du mondial culture et des arts du monde. Et c'est vraiment le monde. Quand on arrive, on voit le monde. On n'a pas besoin de prendre l'avion, on est dans le monde. Parce qu'en arrivant, on voit les Colombiens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Français, les Italiens. C'est magnifique.
On parlait tout à l'heure, évidemment, avec Frédéric, de cette palette quelque part culturelle incroyable entre le théâtre, la danse, la musique, la peinture, tous ces stands, évidemment, hein, cette richesse. Qu'est-ce que vous en pensez, Paco ?
Cette richesse, c'est ça le vrai mot, c'est riche. Ça, c'est vraiment riche. Regardez, dans le monde, de rassembler tout cet art, la peinture, la danse, la musique, tout ce que vous venez de dire, c'est ça la vie. C'est vraiment, c'est tellement riche, on ne peut pas limiter. Moi, je suis content d'être là. Je suis aussi fier de cette ambiance et de cette organisation.
Et on a goûté aussi avec vous, Paco, cette cuisine.
Oui, qui vient d'origine du Sénégal, le mafé, tout le monde le connaît, voilà, et le tchéboudjé, le yassa poulet, tout le monde le connaît aussi, c'est ça aussi, parce qu'il y a les Colombiens qui ont amené leur plat d'origine, c'est ça la richesse de cet événement, les Sénégalais, ils ont venu avec leur plat, les Français, les Maghrébins, c'est ça la richesse, il n'y a pas plus riche que ça. Donc c'est le partage, c'est pendant le repas, pendant la musique, pendant la danse, pendant les ateliers, les Asiatiques à côté avec leurs ateliers. Et c'est ça qui fait la beauté de cette ambiance, de ce festival.
Ben, merci beaucoup Paco.
Avec grand plaisir.
C'est la fin de cette émission réalisée lors du Festival des Arts du Monde. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur www.radio-aviva.com. À bientôt sur Radio Aviva.
Perdre haleine. es-tu le parfum que le vent ramène? Dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique quand se déroule le générique? Et si l'on rejouait toutes les scènes? Dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème? Dis-moi encore que tu m'aimes. Dis-moi encore que tu m'aimes. La vie reste fragile tout de même. Et ce trafic qui nous emmène. Et si l'on rejouait toutes les scènes? Dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème? Dis-moi encore que tu m'aimes.
Radio Aviva à Montpellier, Vendargues et Courmont-Terral, 88 FM en DAB+ et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Plus mon sang se vide et plus tu apprends.
la journée, de 6h à 20h, Radio Aviva renforce l'info avec des flashs locaux, nationaux et internationaux, 7 jours sur 7. Giving.